réplique « Qu'est-ce que la gauche ?» avec Jacques Julliard et Jean-Claude Michéa. Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mes yeux la conférence, écrivait Montaigne, et ce mot signifiait alors « conversation ». Il ajoutait dans le même chapitre des essais « Nous n'aimons pas la rectification de nos opinions, il faudrait au contraire s'y prêter et s'y offrir ». Quand on me contredit, on éveille mon attention, non ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune de l'un et de l'autre. Cette recherche commune de la vérité par deux intellectuels aux opinions divergentes, c'est ce qui fait tout le charme et tout le prix de la conversation épistolaire entre Jean-Claude Michéa et Jacques Julliard, le peuple et la gauche. On lit ce livre fébrilement, le crayon à la main, et avec un désir croissant de se mêler à la conversation. Tel Woody Allen faisant surgir magiquement Marshall McLuhan au moment où il a besoin d'avoir son avis dans le film Annie Hall, je réalise aujourd'hui ce vœu en accueillant dans le studio de réplique Julliard et Michéa en personne. Et avant de nous arrêter au « et » de la gauche et le peuple pour savoir si cette conjonction exprime un lien ou une opposition, je poserai à mes deux invités la question qui me brûle. Le peuple en 2014, c'est quoi? C'est qui? Jean-Claude Michéa.
Comme diraient nos amis québécois, c'est une question piégeuse. Parce que le mot de peuple a deux significations majeures. C'est d'abord une signification sociologique. Je peux alors faire la liste des classes ou des catégories qu'on peut rassembler sous le nom de peuple, ouvrier, employé, petit fonctionnaire, petit paysan, petit entrepreneur, etc., etc. Et si on veut mettre un peu d'ordre dans cette présentation sociologique, on dira que ce qu'ils ont en commun, c'est que, sous des formes qui varient selon les catégories, leur vie est décidée d'en haut ou est déterminée d'après des logiques, comme celle de l'accumulation mondialisée du capital, sur lesquelles ils n'ont presque aucun contrôle. Ces catégories n'ont pas un statut exactement identique. Le petit entrepreneur a théoriquement plus d'autonomie que le prolétaire ou l'employé. Mais en ce sens, en 2014, ces classes populaires constituent encore la majorité de la population active, même si elles sont de plus en plus invisibles aux yeux des sociologues d'État, du fait qu'en raison de l'apartheid géographique décrit par Christophe Guilly, et dû à la mondialisation, ils sont plutôt concentrés dans cette France périphérique des plans sociaux, en sorte qu'on la croise difficilement, je peux en témoigner, quand j'arrive à Paris.
Pourquoi parlez-vous de sociologue d'État ?
Oh, ça, c'est une formule polémique que j'avais employée à l'époque de l'enseignement de l'histoire, au même sens que sociologie ministérielle, pour désigner ce type de rebelle que l'État nourrit pour vivre de la critique apparente de l'État. Voilà, je l'avais pris dans un sens polémique. Et peut-être parce que le département de sociologie est, pour des raisons qui tiennent à la nature de la cooptation en France, l'un des plus sinistrés sur le plan intellectuel. Donc j'en reviens à la deuxième partie. Et par ailleurs, alors sous ce rapport, évidemment, le peuple, en 2014, il existe, il est là, il est majoritaire. Mais si on prend le mot « peuple » dans son sens politique et philosophique, c'est-à-dire ce sujet politique investi soit d'une mission historique, soit d'une tâche quelconque, prendre la Bastille, abolir les privilèges ou autre, ce concept politique, évidemment, désigne le produit ou la conséquence d'un travail politique et philosophique, d'organisation et de pensée. Ça a longtemps été le cas parce qu'existait dans notre société un certain nombre de grands récits qui permettaient à ces catégories différentes de se penser malgré tout comme ayant quelque chose de commun, leur permettant d'agir en commun. Mais ce qui a disparu depuis 30 ans, c'est ces grands récits. Grands récits, ça j'insiste, qui étaient de surcroît la source d'une véritable fierté. Je rappelle que sous Sartre, le fait de ne pas être né prolétaire signifiait qu'on avait une dette à expier. Et en mai 68, on avait honte de ses origines bourgeoises. Tout C'était a changé bien, en 30 ça. Ans, c'est le contraire. Bon. Désormais, la gauche a réussi à donner aux prolétaires la honte de leurs origines.
Jacques Julliard.
C'est vrai que c'est un mot piégeux. Tout simplement parce que Le peuple, c'est une de ces notions politiques, comme la nation, on pourrait en citer toute une série d'autres, qui n'existent qu'à travers leurs manifestations. On peut en effet en faire une reconstruction philosophique, comme l'esquissait Jean-Claude Michel à l'instant, mais le peuple, on le voit à travers des manifestations qui s'appellent le vote, mais qui s'appellent aussi la manifestation, la rue, la révolution, tout ce que vous voudriez. Le problème, c'est que pendant longtemps, le peuple au singulier, précisément, ça n'a fait question pour personne. Je dirais que Nicolas Sarkozy a dit quelque chose de très juste, ça lui arrive, quand il a dit « les gens qui se lèvent tôt ». Et d'une certaine manière, c'est une chose qui reste vraie. Je m'aperçois que je suis en train de m'exclure de ce peuple. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire qui tient à mon tempérament. Mais
vous travaillez tard.
J'ai de la peine le matin, effectivement. ce qu'il y a, c'est que dans le passé, tout le monde comprenait de quoi il s'agissait. Et personne n'en mettait en cause le fait qu'il y avait une sorte d'unité du peuple, peut-être à cause de ces grands récits dont vous parliez, et Jean-Claude Michel. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, la diversification est telle que le peuple ne se définit que négativement par rapport aux élites, par rapport aux classes dirigeantes, ça reste vrai. Mais la question qui est posée, faut la poser d'emblée, c'est de savoir s'il y a une unité suffisante, non seulement de conception, mais une unité d'intérêt, une unité d'action aussi, entre diverses catégories du peuple. Alors c'est d'autant plus discutable que si l'on inclut les classes moyennes, enfin une partie des classes moyennes, les commerçants, les artisans, etc., dans le peuple. Et ce qui fait que, je le dis pour terminer, qu'un des objets de notre débat entre Jean-Claude Michel et moi, c'était de savoir si le peuple peut être encore un concept politique opératoire. Alors moi, j'ai tendance à m'interroger. Jean-Claude Michel est beaucoup plus persuadé de cela.
Mais justement, l'unité, disiez-vous, Jacques Julliard, aujourd'hui du peuple, est devenue problématique. On le voit même dans le vocabulaire. C'est-à-dire que quand on parle de quartier populaire, on dit une chose, et quand on parle de classe populaire, on en dit une autre. Vous citiez Christophe Guillouis, Jean-Claude Michéa. Il montre très bien, notamment dans son premier livre « Fracture française », que les classes populaires désertent la banlieue, elles n'habitent plus majoritairement au-delà du périphérique, elles peuplent ce qu'on appelle le périurbain, et donc les quartiers populaires deviennent, notamment en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, ethniquement homogènes. Et cette division se reflète aussi parfois dans le discours politique, ou en tout cas une nouvelle question se pose. La laïcité en France était une évidence. La France était une république laïque, mais on n'y pensait pas. On a commencé à y penser en 1989 avec l'affaire de Creil. Ça continue aujourd'hui, le collège de Creil. Ça continue aujourd'hui avec l'affaire de la crèche Babylou à Chanteloup-les-Vignes. Donc tout d'un coup, la laïcité devient menacée, donc problématique. De même avec une réalité qui est celle de l'identité. L'identité, le fait que la France soit une nation, on n'y pensait plus. On y pense aujourd'hui sous l'effet de la mondialisation, mais aussi, faut-il le dire, et Jacques Julliard aborde ce problème, vous un peu moins, sous l'effet de l'immigration. Alors, comment faire aujourd'hui pour réconcilier ces deux acceptions du peuple? Et, question subsidiaire, si la gauche a du mal avec le peuple, n'est-ce pas aussi parce qu'elle ne veut tenir compte que de sa composante sociale et maudit sa composante identitaire?
Je ne sais pas si on peut poser exactement le problème comme ça. C'est vrai que la mondialisation, c'est-à-dire tout simplement le développement de la logique du capitalisme à l'échelon mondial, produit toute une série d'effets, entre autres l'individualisation et l'atomisation des individus. Elle explique que les mouvements migratoires rendent les différentes nations beaucoup plus hétérogène sur le plan, entre guillemets, ethnique qu'autrefois. Et par conséquent, tout cela rend de plus en plus difficile le travail de fédération des peuples sous un drapeau politique commun. Cela dit, ce n'est pas un problème entièrement nouveau. En 1845, dans Engels, dans la situation de la classe laborieuse en Angleterre, il y a un long chapitre sur l'immigration. À l'époque, c'est le problème des ouvriers irlandais venant en Grande-Bretagne, où Engels explique à la fois que l'immigration en tant que système est le produit d'une politique patronale et qu'en même temps, le mouvement ouvrier ne réussira à mettre en avant son programme que s'il parvient à surmonter les clivages, les contradictions au sein du peuple, entre guillemets, entre ouvriers anglais et ouvriers irlandais. Simplement, là où je suis d'accord sur un vrai plan avec Alain Finkielkraut, c'est que la logique du système, qui est une logique de dissémination, d'atomisation du monde, comme le disait Engels, rend par définition beaucoup plus difficile toutes les stratégies de rassemblement et de fédération. Autrement dit, la tâche est beaucoup plus difficile qu'autrefois. Et en même temps, ça c'est la composante optimiste de mon discours, le système capitaliste n'avait jamais poussé ses nuisances aussi loin, et sans se référer forcément à Piketty et à d'autres, le niveau des inégalités est devenu tel que la fameuse distinction que Hogarth faisait toujours en disant qu'il y a le « eux » et le « nous », elle n'est jamais devenue aussi grande qu'en 2014. Donc il y a aussi des contre-éléments qui vont dans l'autre sens et qui permettent de dire que tout n'est pas perdu pour donner aux gens, quelle que soit leur origine ethnique et autres, ouvriers issus de l'islam, population des banlieues, population de la France férique, le sentiment qu'ils ont quelque chose en commun, malgré tout, oui. À partir de quoi un front commun est possible.
C'est toute la question. Longtemps, parce que vous avez raison, ça ne date pas d'aujourd'hui, ces divisions, y compris ethniques, à l'intérieur du peuple. Simplement, dans la logique française, dans la logique républicaine, ces divisions étaient provisoires. Parce que la doctrine en matière populaire, c'était l'assimilation. C'était, au fond, un peuple peut avoir des composantes sociologiques ou ethniques différentes, mais de toute manière, tout ça a vocation, comme on dit aujourd'hui, à être brassé dans le creuset français. Et ce qui fait le problème que pose très bien Guy Huy dans ses récents livres, c'est qu'on peut se demander si les différences ethniques ne résistent pas à la communauté des intérêts auxquels vous faites allusion, et également à la proximité géographique. Or, tout ça tend à se dissocier. Nous sommes dans un processus de diversification croissante, de libanisation, non pas religieuse, enfin, quoi que ça existe, mais de libanisation ethnique. Et je pense qu'il a raison de poser le problème et que la gauche, en particulier, a toujours péché par optimisme.
Mais alors, justement...
Juste un mot pour dire que la gauche a pour doctrine officielle, sinon l'assimilation, du moins ce qu'on appelle l'intégration, et pour pratique, la communautarisation. Et c'est toute la question aujourd'hui.
Oui, mais Jean-Claude Michéa, l'un et l'autre, dans le livre, vous critiquez la pauvreté de l'anthropologie du socialisme majoritaire et du libéralisme. Un homme qui ne serait guidé que par ses intérêts. Vous dites qu'il y a d'autres dimensions, celles qu'explore notamment Albert Hirschman dans son livre « Les passions et les intérêts », d'autres dimensions psychologiques que celles-là. Mais il y a aussi cette dimension culturelle que la sociologie dominante, qui est critique de la domination, ne veut pas voir. Parce que tout ce qui est culturel devient à ses yeux social. C'est une sociologie anti-anthropologique, si je puis dire. Vous citez Hugues Lagrange. Hugues Lagrange a été, si vous voulez, très attaqué, ostracisé, parce qu'il a osé parler, alors même qu'il est partisan du multiculturalisme, d'un choc des cultures. Un choc des cultures qu'on ne peut pas nécessairement imputer au système capitaliste, à la domination, à l'inégalité. Ce choc des cultures, il me semble que c'est le problème de tous les pays européens, et c'est ce problème que ne veulent pas voir tous ceux aujourd'hui qui dénoncent le retour aux années 30. Voilà, c'est retour aux années 30, l'antifascisme s'impose, etc. Cette réalité existe, et c'est cette réalité qui me semble rendre l'unité du peuple, que vous appelez de vos voeux, très très problématique, Jean-Claude Michéa.
Oui, je suis toujours d'accord avec votre constat et en désaccord avec l'interprétation qu'il s'agit d'en donner. ce développement de ce que vous appelez, de ce qu'on a appelé le choc des cultures, là encore une fois, c'est quelque chose de très ancien. Il est intérieur à chaque société. Il y a toujours eu une France du Midi et une France du Sud. Et dans les années 40, 50, années 30, c'était les films entre Fernandel et Jacques Berry. Il y a toujours eu ce problème de former de l'unité avec la différence. Mais tous ces problèmes sont majorés avec le développement d'une logique libérale dont le principe, depuis le départ, qu'on peut comprendre à la lumière des guerres des religions, c'est de construire une société dont les structures communes seraient axiologiquement neutres. L'idée que le marché et le droit sont les deux seuls dispositifs qui fabriquent de l'appartenance à une société. Et pour le reste, comme dit Margaret Thatcher, la société n'existe pas. Cette neutralité axiologique, je le cite dans le livre, on en a le reflet dans le concept de croissance, puisque aussi bien dans la communauté européenne que chez certains députés de l'UMP, on voudrait maintenant intégrer le chiffre de la délinquance dans le calcul du PIB. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a pas de valeur commune en dehors du droit et du marché, on veut former une communauté sans valeur commune. À partir de ce moment-là, il est normal que un mouvement centrifuge anime cette société. Van Hegem vient de produire un livre remarquable, un entretien sur sa vie, qui s'appelle « Rien n'est fini, tout commence », où il explique très bien que dans sa jeunesse ouvrière wallonne, le problème des contradictions entre les Flamands et les Wallons n'existait pas parce qu'il y avait une culture de classe, parce qu'il y avait des valeurs communes, et qu'il devient un problème central en Belgique à partir du moment où chacun se retrouve renvoyé au seul trait signifiant qui le définisse, le fait que je suis flamand, que je suis wallon, mais je mets ça en relation beaucoup moins avec quelque chose qui tiendrait à la nature du flamand, du wallon, du belge, de l'auvergnat, du musulman, etc., qu'il ne peut pas y avoir d'intégration dans une société capitaliste si son principe de base, c'est la neutralité axiologique. Il n'y a ni bien, ni mal, ni décence, ni indécence.
Jacques Julliard, et puis nous passons à un autre sujet.
Nous avons beaucoup perdu, anthropologiquement parlant, en perdant la division majeure de la société en classes. Marx l'a déploré, et on peut toujours la déplorer à long terme. À court terme, elle était un instrument, non pas de diversification, mais d'unification, en quelque sorte, du discours, non seulement sociologique, bien entendu, mais du discours politique lui-même. On savait où on était. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'intérieur des classes populaires, ou de ce qu'on aurait appelé autrefois la classe ouvrière, mais disons plus largement les classes populaires, et il y a encore suffisamment de choses en commun pour produire ce que Marx appelait, appelait depuis lui, une conscience de classe. Or, c'est là que la question d'Alain Finkielkraut nous interpelle, à savoir, est-ce que les divergences culturelles et notamment ethniques ne rendent pas cette unification extrêmement difficile? Autrement dit, dans les motivations des acteurs et dans les représentations qu'ils ont de l'avenir, est-ce qu'il y a toujours l'idée d'une classe, même si elle d'une classe dominée, même si elle n'a plus pour objectif exact la révolution, mais en tout cas son émancipation, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas une tendance au renfermement de chaque groupe d'origine ethnique différente sur elle-même?
Oui, mais Jacques Julliard, justement, doit-on se résigner à ce que ce soit le Front National ou la droite de la droite qui prennent en charge les questions d'identité? D'ailleurs, le mot identité, on peut l'écarter, car en effet, il est peut-être sujet à caution.
Moi, il ne me gêne pas. Hein.
Mais disons, les questions de civilisation, puisque Jean-Claude Michéa nous dit pas de valeur dans une société régie exclusivement par le marché et par le droit. Et tout d'un coup, on se demande, sommes-nous une civilisation? Voulons-nous préserver cette civilisation? Voulons-nous intégrer dans cette civilisation des gens, ou plutôt les inclure tels qu'ils sont dans une communauté de communautés? Toutes ces questions-là se posent, elles se posent à tout le monde, et on a le sentiment que la gauche hésite profondément à les traiter, de peur de faire le jeu du Front National. Or, peut-être, effectivement, avec cela, pourrait-on sortir de ce climat où, en effet, tout se vaut puisque c'est le marché qui dicte sa loi. Jacques Julliard.
Puisque tout débat politique en France finit par se résumer à la question de savoir si on fait le jeu ou non du Front National, ça devient obsessionnel, n'est-ce pas ? Et c'est extrêmement fâcheux. Je dirais, pour rester dans un instant dans ce schéma, que ça n'est pas en refusant de poser la question des identités que l'on fait le jeu du Front National, c'est au contraire, pour lutter contre le Front National, il faut poser ces questions des identités. Moi, personnellement, je crois qu'on peut les surmonter. Autrement, je ne serais pas socialiste, je ne serais pas républicain, je ne serais pas de gauche, si je ne pensais pas qu'on ne peut pas les surmonter. Mais dire que le problème ne se pose pas, alors là, je ne suis pas d'accord. Et là, j'y faisais allusion il y a un instant, le progrès de l'idée communautariste à l'intérieur de la gauche a été quelque chose de, comment dire, de dissolvant pour la pensée de gauche en général, qui est, à mes yeux, et on me démentira si je me trompe, une pensée universaliste, une pensée qui doit dépasser justement les conditionnements. Mais si on ne fait rien, on ira vers ce que j'appelle une libanisation culturelle.
Jean-Claude Michéa. Non, parce que vous inquiétez de la neutralité axiologique de notre société. Vous voyez des manifestations. On dit, par exemple, le peuple de droite occupe la rue. Alors, je ne nie pas qu'il y ait des intégristes très inquiétants dans la manif pour tous, des gens qu'on peut qualifier de rétrogrades, mais on sent bien ce mouvement venir. Ben là, nous sommes une nation, nous sommes une civilisation, nous entendons le rester. Que faites-vous de ce type de revendication ? En quoi rencontre-t-elle ou ne rencontre-t-elle pas l'idée que vous vous faites du peuple ? Jean-Claude Michel.
On en revient toujours à la même situation. C'est ce que Orwell avait parfaitement compris lorsqu'il analysait le fascisme, en disant que le fascisme ne prospère dans les classes moyennes et les classes populaires que parce qu'il est capable de reprendre à son compte, sous une forme pervertie, tout ce que la gauche ou les socialistes ont abandonné. À partir du moment où l'homme de gauche moderne, qui n'a plus rien à voir avec le socialiste du 19e et même de la première moitié du 20e siècle, ne peut pas penser le concept de valeur commune, de common decency. Chaque fois que je mentionne l'idée orwellienne, il y a des choses qui ne se font pas, et chacun peut le comprendre à quelques exceptions près, automatiquement j'ai le droit à une volée de bois vert, mais non, le peuple c'est affreux, sale et méchant, l'idée qu'il aurait une moralité spontanée est absurde. C'est d'ailleurs toujours étonnant. Si vous dites concernant les élites tous pourris, hein, aussitôt on vous accuse de tous les maux du monde, mais si vous ne dites pas du peuple affreux, sale et méchant, tous pourris, un peu la vision Eddy Bellegueule des ouvriers picards, automatique, à ce moment-là...
C'est pas ce que vous reproche Boltanski. Vous êtes mis dans le même sac que moi dans son livre. Il dit simplement que vous voulez, en quelque sorte, en disant que le peuple a une civilité spontanée, innée, vous voulez l'encadrer, vous voulez en quelque sorte limiter, domestiquer sa révolte. C'est-à-dire que dans la violence populaire aujourd'hui, eh bien, il y a une révolte qu'il faut prendre en compte et il s'agit de ne surtout pas encadrer le peuple par je ne sais quel common decency qui l'empêcherait d'aller jusqu'au bout de la colère qui peut être la sienne. Je crois que c'est ça que vous reproche une certaine extrême gauche.
Auquel cas, c'est une idée absurde et bourdivine. La common decency n'est pas là pour encadrer d'en haut et du dehors les communautés. Les communautés n'existent. Il ne faut quand même pas oublier que l'anthropologie sur laquelle je m'appuie, c'est l'anthropologie de Mauss et de Polanyi sur le don. Il n'y a de communauté là où ne règne pas le chacun pour soi, et qu'on aille dans une tribu inuite, qu'on aille en Afrique, qu'on aille partout dans le monde où il y a des communautés de base, il y a toujours eu des formes d'entraide, Kropotkin en avait fait la théorie bien avant Mauss, qui fait qu'une communauté ne tenait pas en fonction du seul calcul égoïste ou de l'esprit procédurier, le marché et le droit, mais par en amont, tout un ensemble de relations de, comme on dit, donner, recevoir et rendre, dont le fondement était anthropologique, ce que l'anarchiste David Graeber appelle notre communisme quotidien. Et il est là, il n'est pas importé d'en haut. Il faut vraiment être bourdivin pour avoir le sentiment que l'aptitude à donner, sans que ce soit un investissement caché, c'est quelque chose qui devrait convoquer des explications extraterrestres. J'aurais tendance à dire qu'il projette son propre comportement quotidien sur les gens ordinaires.
Vous vouliez intervenir,
oui, et ce que je voulais dire, et ça va dans le sens de ce que vient de dire Jean-Claude Michéa, c'est que la lutte contre les communautarismes, contre l'ethnicisation de la société, est indissociable de la lutte contre le capitalisme, et je dirais plus largement, la lutte contre le règne de l'argent à l'intérieur de nos sociétés. Parce que c'est confère ce que nous avons dit précédemment, et c'est l'œuvre, après tout, s'il y a des problèmes des communautés aujourd'hui, des immigrations, c'est pas la gauche qui a fait venir les ouvriers étrangers, hein, c'est tout de même le capitalisme. Et c'est la réduction de l'ensemble des groupes sociaux à une seule valeur, qui est celle de l'argent, c'est ce que disait Peggy, pour Peggy c'est ça le monde moderne, c'est la réduction de toutes les autres valeurs, c'est pas qu'il y ait pas des valeurs de l'argent, mais c'est que la réduction de toutes les valeurs à celle de l'argent. On ne peut pas lutter, pour dire les choses très grossièrement, contre le racisme ambiant dans notre société si on ne lutte pas en même temps contre les forces de l'argent. Voilà ce que je pense.
Alors justement, mais où sont-elles
et c'est la base de mon accord, je crois,
avec Jean-Claude Michéa. Mais où sont les forces de l'argent? Là, je voudrais aborder un autre thème. Vous citez tous les deux Machiavel, et avec faveur. On ne peut honnêtement et sans faire tort à autrui satisfaire les grands, mais avec le peuple on le peut, car le désir du peuple est plus honnête que celui des grands. Ces derniers veulent opprimer, celui-là ne pas être opprimé. Donc il y a les grands qui ne cessent d'opprimer et de s'enrichir, pour reprendre ce que vous venez de dire Jacques Julliard, et puis il y aurait le peuple qui a un désir spontanément plus honnête. C'est la forme de populisme sur laquelle vous semblez vous accorder. Le peuple est meilleur que les élites. Meilleur, par exemple, que les bourgeois. Et vous citez à un moment donné, j'avoue que j'ai bondi Jean-Claude Michéa, vous citez avec beaucoup de faveur Jules Guesde tout le temps. Mais enfin bon, moi je me souviens de Jules Guesde pendant l'affaire
Dreyfus. C'est à Montpellier, à Nouillon, pas.
Certes, il plaidait pour le séparatisme. Vous poussez très loin. Vous plaidez pour un socialisme séparé, le séparatisme ouvrier. Et vous citez Guesde, en tant que représentant emblématique de la bourgeoisie française, l'individu Dreyfus ne méritait assurément aucune sympathie particulière. Moi, j'ai lu la très belle biographie de Vincent Duclert, d'Alfred Dreyfus, qui était une réhabilitation, parce que certains de ses partisans disaient aussi qu'il n'était pas à la hauteur de son destin.
Oui.
C'est possible, mais c'était un homme extrêmement honnête et vraiment digne d'amitié, digne d'estime, digne de sympathie et d'empathie. Et là, je me dis, c'est pas possible d'avoir une vision justement aussi homogène et aussi négative des grands en général.
Non, mais là, il faut remettre la phrase de Guesde dans son contexte. C'était pour rappeler que l'intervention, au bout de 4 ans, et après 4 ans d'hésitation du Parti ouvrier dans l'affaire Dreyfus, restait dans une logique qui ne mettait pas le socialisme de côté. Quant à l'image de Dreyfus, il ne faut pas oublier, il faut distinguer quand même ce qu'on en sait maintenant, et l'image qu'il pouvait donner dans un monde où Twitter, Facebook et la télévision n'existaient pas, et où ses maladresses, sa timidité et tout, faisaient qu'il apparaissait comme un riche bourgeois qui sollicitait peu d'empathie. Hein. Sa froideur était légendaire. Bon, par la suite, on le découvre, mais je ne pense pas là que c'est le problème majeur ici.
Non, mais vous avez l'air de dire quand même, de même dans votre éloge de la Commune, on a l'impression que c'est la scène primitive pour vous, de votre socialisme. Il y a la Commune et les Versaillais. Mais la Commune, c'est aussi, malgré tout, je ne vais pas plaider pour Adolphe Thiers, mais c'est aussi l'incendie des Tuileries, la tentative d'incendie de l'Hôtel de Ville, des gens qui disaient, du passé monarchique, il s'agit de faire table rase. Et il y a aussi ce mouvement-là, je veux dire, cet éloge du peuple et du séparatisme peut aussi vous amener à oublier la part prise par les autres classes dans la constitution, je ne dirais pas de notre identité, mais au moins de la civilisation dont nous sommes tributaires. Jean-Claude Michéa.
Concernant la Commune, vous avez repris la critique de la gauche de l'époque, de Louis Blanc, etc.
Ben oui.
Ou de Georges Sand et autres. Bon, il y a, dans un tel mouvement, avec une répression aussi sanglante, il est certain que au moment où les Versaillais, et je rappelle que Thiers était le Manuel Valls de l'époque, le chef de la gauche libérale, simplement que Manuel le
Valls n'a écrasé aucune révolte populaire.
Valls n'a pas fait tirer grand-chose.
Et il n'en a pas envie. Sur l'échiquier politique, c'était le représentant de la gauche libérale. Ce qu'il oublie justement, c'est que le mot de Versaillais, je le voyais bien avec mes élèves, faisait penser à Château de Versailles, donc troupe du roi, ouais. Alors que c'était l'Assemblée populaire républicaine de Versailles. Donc il y a eu dans la commune, comme toujours, des dérives, des bavures et tout, mais l'aspect fondamental de la commune n'était pas du tout. Il suffit de lire les souvenirs d'un révolutionnaire, de Gustave Lefrançais, premier président de la commune, pour voir que c'était un mouvement extraordinairement démocrate et respectueux des formes dans l'ensemble.
Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus, vous le savez. Spontanément, j'ai toujours eu, si je laisse de côté 89 et les droits de l'homme, une espèce d'horreur pour un certain nombre d'aspects de la Révolution française, c'est-à-dire ces bourgeois sanguinaires et glacés qu'on retrouve en 93, et toute ma sympathie est toujours allée à la Commune. Certes, la Commune a exécuté des otages à la fin, certes, la Commune a eu la tentation chez certains de ses membres d'une table rase, vous avez raison de le rappeler, mais l'objet de la Commune, ces 40 jours qui sont comme une parenthèse dans l'histoire du monde moderne, c'est un moment où c'est pas le séparatisme à l'infini quelconque qui domine, c'est au contraire la volonté de faire du peuple une totalité et une totalité agissante. Pour moi, la Commune, malgré ses erreurs, parfois même à cause de ses erreurs, reste en effet un moment fondateur qui n'a pas eu de suite. Je vais défendre un instant Jules Guesde, que je n'aime pas. J'ai toujours été jaurésien. Jules Guesde a quand même dit, à propos de l'affaire Dreyfus et à propos du J'accuse de Zola, que c'était le plus grand acte révolutionnaire du siècle. Donc il était capable parfois de revenir sur lui-même. D'ailleurs, ce séparatiste a terminé au gouvernement, ce qui n'a pas été le cas de Jaurès, et pour cause. Il a été assassiné entre-temps. Mais enfin, voilà. Ce à quoi je reviens, à propos de cette question des valeurs, c'est la chose suivante. On me dit, mais dans ce livre et dans les précédents, vous êtes très, très critique à l'égard du Parti socialiste, et moi qui étais plutôt en situation de défense par rapport à Jean-Claude Michéat, je lui donne raison sur ce point. Je crois que s'il n'y a pas une refondation morale du Parti socialiste, il sera incapable de voir quelles sont ses responsabilités du moment. Parce qu'il est dominé par la logique de l'argent, y compris dans ses éléments de gauche.
Oui, mais une refondation morale peut-elle en passer par cette idée selon laquelle le peuple serait, par définition, le dépositaire des valeurs essentielles et même de la commune des sensi, parce que cette bourgeoisie, eh bien, elle avait inventé, malgré tout, les manuels de civilité. Elle savait s'empêcher aussi, pour reprendre la formule que Camus emprunte à son père. Et moi, je voudrais, Jean-Claude Michéat, vous citer à mon tour Richard Hogarth, car je trouve qu'il formerait une paire extraordinaire avec Orwell. Et notamment
c'est un Orwellien.
C'est un Orwellien, mais ça ne m'étonne pas. Il y a un livre que je vénère de Richard Hogarth, 33 Newport Street, autobiographie d'un intellectuel issu des places populaires anglaises. Je lui avais consacré autrefois une émission avec Jean-Claude Prasseron et Claude Grignon. Et il dit ce qu'a représenté pour lui l'école. Il venait d'un milieu très populaire de Leeds. Cockburn, son lycée, avait déclenché en lui l'habitude de mettre en question le monde qui lui avait été précédemment offert, ce qui en retour agissait sur son acceptation ou son refus du monde que Cockburn lui-même offrait. Et il dit ceci, je le cite, « Sans vous sentir supérieur ou méprisant, écoutez vous-même et soigneusement les conversations des hommes sur un chantier de construction, les enthousiasmes et les rejets limités, les discussions sans fin au sujet de la dernière émission de jeu télévisé ou des révélations scandaleuses de leur journal, sur la famille royale, le sport, le monde du spectacle, dont la répétition donne à penser qu'elle touche à quelque chose qui dépasse les aspects superficiels de l'existence, les bavardages sur le sexe, non moins conventionnels et non moins interminables, la routine du langage grossier, lui-même en grande partie d'origine sexuelle, les réactions bornées aux positions politiques simplifiées présentées par la plus grande partie de la presse populaire et colportées dans le groupe. Voilà à quoi vous avez eu la chance et l'énergie d'échapper. Et après, il dit quand même, on trouve dans ce genre d'endroit des individus que ce macaroni inépuisable d'informations fragmentées et idiotes, mijotant dans un bouillon tiède d'opinions reçues, n'a pas empêché de parvenir à une sorte de sagesse qui leur est propre. Autrement dit, la culture l'a malgré tout sauvé, émancipé, lui a permis d'élargir son monde. Et dans un livre d'un auteur que personne n'ose citer, Renaud Camus, Les Inhéritiers, il est écrit que, précisément, la culture et la bourgeoisie, l'expression de culture bourgeoise est quasiment un pléonasme. Il n'y a de culture que bourgeoise, c'est la bourgeoisie qui a voulu faire de la culture sa forme en quelque sorte de distinction. Et on voit Richard Hogarth exprimer sa gratitude pour avoir eu droit à cette culture bourgeoise. Donc, oui, la common decency, oui, le peuple, mais le peuple en tant qu'héritier aussi d'autres choses que lui-même.
Là, je ne vois pas de contradiction avec ce que je dis. D'abord, la common decency, ce n'est pas une théorie philosophique du monde, c'est un ensemble de réflexes moraux dans la vie quotidienne, dont j'ai toujours dit qu'il fallait la radicaliser, l'élargir, et le socialiste ne peut pas se réduire à une morale. Donc la common decency n'est pas le tout du socialisme. On peut très bien être un brave homme aliéné. Dans Le vieil homme et l'enfant, le film de Berry, vous avez l'exemple même de cet homme qui, au fond, est d'une décence extraordinaire et qui, chaque fois qu'il ouvre la bouche, dit ce que Hogarth dit des gens, des ouvriers qu'il décrit. Autrement dit, il n'y a pas de contradiction. Par ailleurs, la culture bourgeoise, mais enfin, je n'ai jamais, à aucun moment, imaginé, je crois que je termine le livre en disant que le socialisme conservera ce qu'il a de meilleur dans l'histoire de l'humanité. Et y compris les grands penseurs libéraux, Adam Smith, sauf que je comprends très bien que Benjamin Constant, ça n'a rien à voir avec Madoff. Hein, et que la culture bourgeoise, ce n'est pas la culture marchande mainstream.
Oui, justement, d'ailleurs, Jacques Julliard, dans un de vos livres, vous parlez de cette super élite qui se constitue aujourd'hui et qui m'apparaît, justement, à travers la description que vous en donnez, une sorte de post-bourgeoisie. C'est-à-dire qui n'a plus aucun des traits de ses héritiers qui avaient quand même le souci aussi de transmettre la culture, au moins à leur progéniture. C'était déjà quelque chose.
Dans nos sociétés, ça n'est pas le peuple qui est séparatiste, c'est la bourgeoisie.
La révolte
c'est la
des élites de l'âge.
Qui s'isole même physiquement dans certains quartiers, qui, à l'intérieur des rues, élèvent des barricades, véritablement. Enfin, j'appelle barricades les portails, parfois en fer forgé, et qui donnent accès à des cités privées, pour prendre cet exemple symbolique. Mais d'une manière générale, je crois l'avoir dit dans le livre, nous parlons du populisme et nous sommes à la fois en accord et en désaccord avec Michéa, mais je pense que le populisme du peuple n'est que la conséquence de ce que j'appelle l'élitisme des élites. C'est parce que les élites se sont coupées du peuple que...
Mais se sont aussi coupées d'elles-mêmes. Elles se sont coupées de ce que la bourgeoisie pouvait produire de meilleur, quand même.
C'est pourquoi j'aime pas trop l'expression de culture bourgeoise. Elle me fait pas peur. Mais je pense que la culture, en France, les dépôts successifs de la culture, c'est à la fois un héritage de l'aristocratie, qui avait un certain nombre de valeurs parfaitement respectables. Deuxièmement, le christianisme, qui a un certain nombre de valeurs largement évaporées dans nos sociétés, mais enfin qui ont formé la société française, et le peuple lui-même. Il y a une culture prolétarienne. Toute culture n'est pas bourgeoise. Et d'une certaine manière, c'est la rencontre de ces trois cultures qui a fait quelque chose de... Enfin, qu'on retrouve un peu dans l'idée de common decency dont vous parlez depuis un instant. Et au contraire, la culture bourgeoise, et en prenant bourgeois dans un sens technique, c'est au contraire une culture de l'égoïsme, de l'argent, et qui a beaucoup fait pour la désintégration de la société française.
Alors, pour m'expliquer... Sur cette expression de culture bourgeoise, je citerai d'abord Renaud Camus, puis le mathématicien Laurent Laforgue. En un sens, écrit Renaud Camus, il n'y a de culture que bourgeoise. Grâce à la culture, la bourgeoisie en sait autant et plus que les nobles. Elle connaît aussi bien, sinon mieux, l'histoire et la littérature. Elle peut constituer d'aussi belles collections, fréquenter, apprécier, subventionner et lancer d'aussi beaux spectacles, élever aussi bien ses enfants, pratiquer une langue aussi châtiée, si ce n'est davantage. Et c'est au fond ce que dit, mais pour le critiquer, Bourdieu dans La Distinction. Quant à Laurent Laforgue, il dit dit, je voudrais prendre la défense d'une catégorie de personnes qui me paraît absolument indispensable à la transmission de la culture, à sa perpétuation et à sa floraison. Je veux parler des héritiers. Bien que je n'ai aucun lien personnel avec ce milieu, je regrette de plus en plus les familles bourgeoises à l'ancienne qui n'ignoraient pas que leurs privilèges impliquaient des devoirs et que l'un de ces devoirs les plus importants était d'honorer la culture et de la servir, de s'y adonner soi-même et de la transmettre à la génération suivante. Ce milieu a donné à la France un très grand nombre de ses écrivains, de ses penseurs et de ses savants, parmi lesquels, d'ailleurs, je dis ça pour Blois, on trouve beaucoup de rebelles. Mais maintenant, je voudrais en revenir...
Juste un mot.
Oui, pardon.
Moi, je trouve que c'est Lafort que vous venez de citer. Se trompe. La littérature française n'est pas bourgeoise. Elle est aristocratique, elle est populaire, elle est rarement bourgeoise. Il y a très peu de grands écrivains bourgeois en France qui défendent la bourgeoisie.
Ah non, mais pas forcément qui défendent la bourgeoisie, mais qui en viennent. C'est ça qu'il veut dire. Qui en viennent.
Oui, qui en viennent peut-être.
C'est ça qu'il veut dire. Ah non, qui défend la bourgeoisie, il n'y en a aucun.
La culture française, Dieu merci.
Mais Flaubert en vient, mais il ne la défend pas. Non, elle n'est pas bourgeoise, sans qu'elle la défend.
Sauf peut-être Molière, mais enfin, ni Balzac, ni Stendhal, ni.
Non, il voulait dire simplement peut-être qu'ils en viennent, mais et parmi eux, il le dit lui-même, beaucoup
d'accord,
de rebelles.
C'est ça.
Mais maintenant, sur l'argent, tout de même, vous disiez que l'un et l'autre, je crois que dans le peuple, il y avait aussi les petits entrepreneurs. Et on l'a vu, c'était populaire avec les bonnets rouges. Mais justement, quelle place continuez-vous à faire ? Donner, recevoir et rendre. Kolakowski, dans un texte que je cite souvent, pourquoi je suis socialiste, libéral, révolutionnaire, conservateur, libéral, socialiste, pardon, eh bien, dit que les communautés humaines sont menacées non seulement de stagnation, mais encore de régression, lorsqu'elles se trouvent organisées de telle manière qu'il n'y a plus place pour l'initiative individuelle et la faculté de création. Or, l'initiative individuelle, c'est l'entreprise privée, et c'est aussi un certain esprit de compétition. Car donner, recevoir et rendre, peut-être, mais la dimension agonistique de la réalité humaine. Qu'en faites-vous ? Compétition dans l'ordre de l'entreprise, mais aussi dans l'ordre de la politique. C'est ce que célèbre Hannah Arendt. Le désir d'excellence, c'est aussi une dimension humaine que nos sociétés, peut-être, favorisent ou favorisaient plus que d'autres. Jean-Claude Michéa.
Mais je n'ai jamais... Ce n'est pas un amateur de football qu'on va demander de rejeter le concept d'agone et de compétition. Simplement, il y a compétition et compétition. Je ne connais pas une personne qui soit de gauche ou socialiste qui ne me dise pas « tu connais un bon dentiste ou un bon chirurgien », c'est-à-dire qu'il les met en concurrence pour aller, si possible, chez le meilleur. Il y a dans la vie une part de jeu, d'agone qui est normale, aller chez un boulanger qui est meilleur qu'un autre, mais tout, c'est comme tout, tout cela vaut dans certaines limites. Ce que je reproche au système capitaliste, ce n'est pas l'idée de la petite entreprise, de l'entreprise en tant que telle, de l'initiative. C'est quand un certain nombre de limites sont franchies, qu'on est dans l'hubris et qu'on rentre dans un domaine haute. La compétition qui organise l'économie mondiale n'a rien à voir avec celle entre deux boulangers, entre deux villages en Bourgogne. On est dans un autre monde. Et justement, la grande force du MEDEF, c'est souvent de faire passer les vertus du petit entrepreneur ou du petit artisan privé de tel ou tel endroit pour étancelle de l'homme du CAC 40, qui en fait n'a rien à voir. Je pense que la plupart des dirigeants du CAC 40 mettraient en faillite un bar-tabac situé dans un endroit très vivant de Paris. Ce sont des bureaucrates qui vont relever leur jeton de présence et qui négocient des rapports de force. Très peu sont des entrepreneurs schumpeteriens à l'ancienne. Bill Gates ne connaît pas grand-chose à l'informatique, ou n'y connaît plus. Et donc, je ne peux pas être contre l'idée de petite entreprise. Et du reste, je rappelle dans mon livre à quel point Proudhon et tout le mouvement anarchiste appréciaient ces fonctions d'initiative privée, dès lors qu'elles étaient socialisées, comme il le dit, c'est-à-dire encadrées par des limites qui feraient qu'on ne tourne le sens du travail bien fait, et d'un profit raisonnable du petit entrepreneur ne devenait pas la base d'une accumulation du capital où à la sortie on avait des Madoff ou l'équivalent des loups de Wall Street.
Cher Alain Finkielkraut, le but de la concurrence, de l'agone, n'est pas nécessairement l'accumulation maximale du bénéfice. Des sociétés non marchandes, non capitalistes, ont pratiqué la compétition. La société aristocratique, avec le duel, avec toute une série de choses comme ça, repose là-dessus. Ce que, encore une fois, qui est insupportable dans le règne de l'argent tel qu'il existe aujourd'hui, c'est qu'il a détruit toutes les autres formes de compétition. Je suis d'accord avec Michéa, moi je préfère le rugby, mais enfin bon, Montpellier se défend très bien en rugby actuellement, hein. Je me permets de vous le signaler au passage, vous le savez d'ailleurs. Mais si vous voulez, le jeu, c'est une forme de concurrence non monétaire, non marchandisée. Et donc, si on veut reconstituer une société, il faut que la bourgeoisie, ou en tout cas qu'on empêche la bourgeoisie, d'imposer une seule valeur au détriment de toutes les autres.
Puis-je ajouter, quelque chose de cet ordre. La logique de la concurrence libre et non faussée finit par détruire l'essence même des activités humaines du jeu et du sport. Vous en avez eu cette année, sous la présidence de Najat Vallaud-Belkacem comme ministre du sport, l'exemple parfait avec l'affaire Luzenac. Luzenac, ce petit club monté par ses propres moyens et vainqueur sur le terrain en Ligue 2, selon les lois du sport, et à qui on a dit pas d'équipe de 100 dents en Ligue 2. Et vous n'avez que 650 habitants, vous n'avez pas votre place ici. Et gagné le droit de passer du national en Ligue 2, selon la logique du sport, la logique de la concurrence libre et non faussée, ils ont été punis en étant remis en 5e division pour osé faire preuve d'esprit sportif. C'est quand même un exemple de ce que le libéralisme et sa concurrence détruisent de la vraie compétition.
Mais
c'est
la négation de la compétition. L'escendant.
J'ai l'équipe tous les matins. Oui. Vous verrez ce que c'est que le capitalisme à l'état pur.
À l'état pur. Et en effet, le Paris Saint-Germain devenu Qatar Football Club, c'est une souffrance pour moi. Mais il n'empêche que Sandan, nous ne savons pas dans quel contexte François Hollande l'a dit, nous ne savons pas s'il l'a dit. Et nous savons seulement que, pour justement montrer à quel point c'est un homme bien, il a, si vous voulez, invoqué ses origines extrêmement populaires. Vous parliez de Sartre qui devait expier ses origines bourgeoises. J'ai entendu Benoît Apparu se vanter d'être le fils d'une femme de ménage. Donc aujourd'hui, les choses vont aussi dans ce sens. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Une dernière question. Je vais me faire l'avocat du diable, un instant. Kolakowski, dans le même article, dit qu'un socialiste croit fermement qu'il est absurde et hypocrite de conclure qu'une société parfaite et exempte de conflits étant impossible, l'inégalité est inévitable. Ce pessimisme anthropologique, typiquement conservateur, a conduit à l'étonnante conviction qu'un impôt progressif sur le revenu est abominable et inhumain et aussi suspect que l'optimisme historique qui a servi de base à l'archipel du Goulag. Mais je vais vous poser la question. En ce sens, ne vivons-nous pas aussi dans une société quelque peu socialiste? Car le capitalisme dont vous parlez existe bel et bien. La concurrence libre et non faussée, le néolibéralisme. Mais la France consacre à ses dépenses publiques et sociales 56% de son produit intérieur brut. C'est une somme énorme. C'est une somme énorme. Nous vivons dans une société extrêmement redistributrice. Tout le monde va se faire soigner dans les grands hôpitaux par les meilleurs médecins. Donc, comment intégrez-vous cette dimension sociale dans le portrait que vous faites de la société actuelle ?
Ça ne me gêne absolument pas. Ça veut dire simplement une chose, c'est que ces grandes conquêtes, il suffit de se reporter au 19e pour comprendre que la sécurité sociale est une immense conquête des classes populaires. Ça a été fait dans une période d'affaiblissement du capitalisme, dans une période au lendemain de la guerre où un certain esprit national régnait, incarné à la fois par le tripartisme et le général de Gaulle, bien que il n'ait pas toujours été d'accord, mais si vous voulez, c'est en effet une marche en avant. Le monde entier demande de la social-démocratie aujourd'hui. De interroger les ouvriers chinois ou brésiliens, ils demandent, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent quelque chose qui a été en partie réalisé en France, en grande partie réalisé en France. Donc de ce point de vue-là, moi, non seulement ça ne me gêne pas, mais je crois que le triomphe de la vraie social-démocratie passe par l'abaissement du capitalisme de l'argent, le capitalisme bancaire, pas l'industrie. Moi, je suis pour l'industrie. pas contre la banque.
Pour les entreprises, alors, comme Manuel Valls.
Oui, je suis pour les entreprises, naturellement. Comment être contre ? Il faut être tombé sur la tête pour être contre les entreprises. Mais, en revanche, je suis contre la domination du capital financier qui est en train de tout pourrir en France et dans le monde. Et
sur pour conclure, Jean-Claude Michéa.
Sur cette question, on oublie toujours, et notamment Marx l'oubliait, que l'État bourgeois, entre guillemets, ou l'État capitaliste, a deux fonctions. Favoriser l'accumulation du capital, la concentration des richesses, etc., mais aussi maintenir les conditions politiques de la paix sociale. Et donc, d'avoir la capacité de négocier des compromis qui, en tant que tels, ralentissent l'accumulation du capital. Bismarck a été le premier à le faire, et ça a bien été le cas de l'État-providence, notamment pendant la période des Trente Glorieuses. Oui. Sauf que nous en sommes arrivés à un stade où l'accumulation du capital, enfin, autrement dit, notre sécurité sociale, c'est la survivance, hein, comme la lumière qui nous vient d'une étoile morte, de cet état des Trente Glorieuses. Mais justement, actuellement, le mode de croissance du capitalisme touche une limite qui va faire que la croissance va devenir impossible ou très faible dans le monde futur. Et donc, tous ces garants de l'État-providence qu'on avait encore vont être démantelés peu à peu. Et on ne peut plus revenir à une logique keynésienne. Donc soit on reste dans le système capitaliste et on va aller vers un monde d'austérité, de pauvreté absolue à la Mad Max, soit il faut sortir du capitalisme si on veut retrouver le pouvoir d'aller se faire soigner les dents, hein, et soigner le cœur sans se ruiner et sans que ce soit réservé aux riches.
Mad Max, vous allez peut-être un peu fort, mais il est vrai que...
peut-être plus vite que vous croyez.
La grande... pour des prolétaires avec des dents, si j'ai bien compris.
Mais François Hollande aussi. Cela étant, il est vrai que la grande question qui se pose de nos jours, c'est la question des limites, et que nous sommes mal armés ou désarmés avec notre paradigme prométhéen pour y faire face. En tout cas, merci beaucoup Jacques Julliard, Jean-Claude Michéa. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, « La gauche et le peuple, ses lettres croisées » sont publiées aux éditions Flammarion. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'histoire et l'avenir du fascisme en France ». Mes invités seront Pierre Milza et Zef Sternel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Cédric Chatelus. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.